Lettre 37e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, février 302. Il y a longtemps, mon cher Phocion, que tu as reçu ma dernière lettre. Elle t'apprenait la perte irréparable qui m'accable. Je ne me rappelle plus ce que je t'écrivis dans un moment où je n'étais plus à moi. Mais tu sais ce que j'ai perdu et de quelle manière. Tu peux te former une idée de ma situation actuelle. L'accablement ne dure pas toujours. Et mon esprit est sorti de son profond abattement. Pendant le temps que je fus à Trakéna, au milieu des dangers, du malheur des voisins de Démétrius, je conservais mes forces physiques et morales. Mais à Nicomédie, lorsque j'eus repris ma vie ordinaire, je succombais de nouveau à mon malheur. Je fus vraiment malade. Comment me suis-je remis et à quelle fin, je l'ignore, mais peu à peu j'ai repris la faculté de dormir, que j'avais complètement perdu, et celle de vaquer à mes affaires. Je vois avec regret que je puis traîner longtemps encore ma triste existence. Ah oui, bien triste. Elle me paraissait déjà si inutile, si indifférente, que je l'aurais volontiers rejetée loin de moi. Mais je ne le puis, je ne l'ose. Je crains trop de perdre ma dernière espérance, celle de retrouver ma Larissa dans un meilleur monde. Phocion, un rayon céleste a réchauffé mon âme. Un sentier s'est présenté à moi pour parvenir enfin à la vérité, à cette vérité que j'ai vainement cherchée jusqu'à présent. Le devoir de l'homme observateur n'est-il pas de suivre le chemin qui s'offre à lui, pour voir du moins où il mène, dût-il même se sacrifier pour arriver à cette découverte? Longtemps je fus égaré par une lumière trompeuse. En la perdant, je restais plongé dans une obscurité effrayante, et sans guide pour en sortir. À présent, une lumière vive et pure m'apparaît et me console. Je ne balance pas à la suivre avec confiance. Un sage chrétien, nommé Apelles, le conducteur et l'ami de ma pauvre Larissa, fut la première personne qui s'approcha de moi lors de l'horrible catastrophe. Il fut aussi mon soutien et mon ami. À sa douce et persuasive éloquence, je dois, avec le retour de ma raison, la force de ne pas succomber tout à fait à l'excès de ma douleur. Ses consolations avaient quelque chose de divin. Il les puisait au fond de son cœur. Il les faisait pénétrer dans le mien comme un rayon céleste. Dans l'impuissance de me donner des espérances pour cette vie, il m'en rendit de bien plus certaines pour l'avenir. Il m'ouvrit les portes des cieux, du séjour éternel de bonheur que Larissa occupe déjà, où elle m'attend. Mon âme s'élança vers elle, se relèvera avec mes espérances. Je retrouvai avec elle mes forces et ma santé. Je redevins capable de penser et d'agir. Un chrétien sage est l'être le plus respectable. C'est, j'en suis convaincu, le plus haut point de perfection dont la nature soit capable. Soyez parfait comme l'est votre Père qui est dans les cieux, a dit leur divin maître à ses disciples. Quelle image, quel modèle! Et quel Dieu que celui des chrétiens! Il n'est point vicieux comme les dieux de l'Olympe, soumis aux faiblesses, aux passions, aux jouissances des sens. Ce n'est point non plus un spectateur oisif comme les dieux d'Épicure, vivant dans une continuelle apathie, laissant aller le monde comme il peut, d'après les lois générales. C'est un être immortel, tout-puissant, sans commencement, qui n'aura point de fin, qui sait tout, qui peut tout, qui est présent partout. De rien, du néant, il a créé tout ce qui existe, et il l'a fait par amour pour former à son image des créatures qu'il put rendre éternellement heureuses. La doctrine des chrétiens est simple et sublime. Elle est plus facile à comprendre, je t'assure, que les systèmes variés de nos philosophes. Qu'on l'envisage sous son vrai jour, dégagé des idées poétiques, et tu n'en trouveras aucune qui soit plus sage et plus modérée. L'histoire de la chute du genre humain est d'une grande beauté, présentée tantôt sous une image douce, tantôt dans toute son horreur. Elle est fondée sur la connaissance du bien et du mal qui réveille avec force la conscience et lui donne le sentiment vrai de ce qui est juste ou injuste, tout en détruisant le beau rêve d'une innocence éternelle. Tu dois voir là le siècle d'or, et la raison de sa disparition dans les lois immuables de la nature de l'homme. La fable de Psyché est l'allégorie du genre humain. À ce Dieu qui créa les étoiles et toutes les créatures, qui dirige leur sort dans sa sagesse adorable, les chrétiens donnent le doux nom de Père. Ce n'est point par des sacrifices et par le sang des animaux répandus sur ses autels, ce n'est point par des offrandes qu'ils cherchent à lui être agréables, mais par l'hommage d'un cœur bon et juste. Tous les mortels sont leurs frères. Les aimer comme soi-même, ne faire aux autres que ce qu'on voudrait qu'il nous fût fait, voilà leur premier principe. Plus on réfléchit sur des idées si relevées, sublimes dans leur noble simplicité, plus on adore celui qui, en si peu de mots, sut embrasser toutes les lois de la morale. Aimer Dieu par-dessus tout, et son prochain comme soi-même, que peut-on demander de plus? Ah, Phocion! Ce monde serait déjà le paradis si tous les hommes voulaient suivre cette maxime. Mais les chrétiens vont plus loin. Ils demandent de leurs disciples de mettre un frein aux passions les plus actives, à la colère, à la vengeance. Bénissez ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous haïssent. Dans quelle école, Phocion, enseigna-t-on la pratique de telles vertus? Oui, la morale chrétienne est divine, mais si elle nous montre une hauteur où nous ne saurions atteindre, elle nous excite au moins à y aspirer. De quoi l'homme n'est-il pas capable lorsqu'il veut employer toutes ses forces? Il doit se représenter sans cesse le but de ses efforts, parvenir à l'infini, devenir un être immortel et complètement heureux, n'envisager cette terre que comme un séjour passager et le supporter avec courage. Nos philosophes ont entrevu cette sublime destinée de l'homme, mais le Christ l'annonce d'une manière bien plus sûre et plus positive. Il l'a scellé de son sang, il s'est chargé des péchés des hommes et s'est livré volontairement pour tous à la justice divine. L'homme faible et chancelant trouve dans le mérite de cette action ce qui manque à ses efforts. Il a dans le ciel un médiateur, il le sait. Encouragé par cette espérance et par les vertus de son divin modèle, il ose approcher du trône du Tout-Puissant avec moins de terreur. Que cette doctrine est sublime! Qu'elle est analogue au cœur de l'homme, mon cher Phocion! Je ne la connais pas encore parfaitement, mais ce que j'en sais persuade ma raison et satisfait mon âme. Qui pourrait donc me blâmer si je l'embrasse, et si je deviens tout à fait ce que je t'avoue déjà être en grande partie, un chrétien? Je ne veux cependant pas me presser. Ce changement est trop important. Il exige la plus grande liberté d'esprit. Mon âme n'est pas encore assez calme. Le souvenir de Larissa est trop présent à ma pensée. Un poids insupportable oppresse mon cœur. Oh, Phocion, quelle perte j'ai faite! Larissa, compagne de mon enfance, amante de ma jeunesse, bonne, sensible, aimable amie d'Agathoclès, où es-tu maintenant? Ce passé qui m'occupe sans cesse, existe-t-il encore pour toi? Te le rappelles-tu? Vois-tu ton ami inconsolable, abandonné? En perdant la vie, perdra-t-on aussi l'amour et le souvenir? Système effrayant, et que le cœur repousse. Désespoir des malheureux. Quel serait donc l'avantage de l'immortalité pour l'être pensant? Notre sort ne serait-il pas alors semblable en tout à celui des animaux, des plantes, qui par la décomposition de leur corps et la marche de la nature, revivent sous d'autres formes, en partie organiques, sans aucun souvenir de leur état précédent? Non, Dieu ne forma pas ainsi l'homme à son image. À cet égard, le christianisme confond encore les sophismes et les subtilités de la philosophie. Une autre fois, je t'en parlerai. Il me suffit de savoir avec certitude que Larissa n'est point anéantie, qu'elle erre autour de moi, qu'elle m'aime, quoique sa voix angélique ne se fasse plus entendre et que sa figure céleste ne se montre plus à mes regards. Elle existe encore pour moi et ne sera jamais remplacée. Mais ne plus la revoir, quelles peines infinies cette idée renferme. Laisse-moi te quitter et cesser de t'en parler, si je ne veux pas amollir mes forces. Adieu.